Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes avec Émeric Hainaut. Bonjour.
Bonjour.
Alors Émeric, tu es ici pour nous annoncer une soirée qui va avoir lieu le mardi 10 avril à la cathédrale de Die. Et tu l'as intitulée comment ?
Donc l'événement s'appelle « Souffle continu ».
Un hommage aux orgues de la...
C'est une combinaison de deux mots que je trouve très belle, qui me parle et m'a semblé qu'elle soutenait bien cet événement.
Et où le public pourra entendre, et ça c'est rare, de la musique dite expérimentale, on peut présenter ça comme ça ?
Ça peut peut-être avoir l'enveloppe de musique expérimentale. Ça sera une soirée en trois actes. J'y invite donc quatre artistes qui sont, qui s'orientent vers une musique minimale, très épurée, qui frôle même l'ambiant, mais qui aussi peut avoir une appellation d'expérimental, surtout pour les deux Japonais que j'invite. Concernant ces deux Japonais, j'invite Taku Sugimoto, qui est un guitariste déjà d'un certain âge, qui vient du Japon, qui est en tournée en Europe. C'est assez impressionnant, parce que je l'ai déjà vu une fois. Les gens que j'organise en tant que programmateur, c'est des artistes que j'ai déjà vus. Et c'est un homme qui a une approche de la musique, du silence, assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il est guitariste, sa musique est entièrement écrite sur partition, et il a juste un jeu dans lequel il incorpore des silences extrêmes, très longs, et dans lesquels s'engouffrent les petits bruits de... que ce soit une chaise qui craque, quelqu'un qui tousse. Et cette manière de faire, en fait, met en valeur ce qui est en train de se passer. Et donc, ce qu'il propose sont des espèces de fragments de notes, d'accords. Et c'est une sorte de théâtre on va dire, à la guitare. Et voilà, pour l'avoir vu une fois... à Toulouse l'an dernier, c'était vraiment quelque chose, c'est vraiment une expérience. Alors, le 10 avril, il va être accompagné de Minami Saeki, qui, elle, est une chanteuse, artiste, vocaliste, que je n'ai jamais vue. Alors là, j'ai accepté la proposition de les faire tourner, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu le combo. Elle est dans une espèce de démarche assez très très japonaise où sa voix pourrait même paraître des fois enfantin. Et en même temps, c'est des espèces de petits déchirements contenus. Et j'ai amené avec moi un extrait. On va pouvoir l'écouter. De leur duo, Taku Sugimoto et Minami Saeki.
Ce parti pris de la cathédrale pour ce lieu de concert, c'est pour l'acoustique
Oui, j'avais le choix de les faire venir dans plusieurs lieux dans Die, mais c'est vrai que la cathédrale, d'une part, je trouve le lieu, le bâtiment magnifique. Il y a une réverbe naturelle d'à peu près 4 ou 5 secondes. Faut dire que je n'invite pas que Taku Sugimoto et Minami Saeki, j'invite également un anglais, Andy Cartridge, qui joue sous le nom de C. Buckthorn, et lui, il est donc également guitariste, il a une manière de faire, il a une manière de remplir, il est dans une espèce d'avancée très, très émotionnelle, très épique. On est proche de l'ambiant et en même temps c'est une musique très, très pleine, très dense, très belle. Je sais que c'est un peu péjo, enfin un peu subjectif de dire très belle, mais c'est une vraie beauté, une vraie recherche de la beauté au travers de sa musique. Et donc le faire venir lui plus les deux Japonais, ça me semblait évident de les faire venir à la cathédrale. Et en plus de ça, donc pour la fin du concert, j'invite Anthèse qui est français, qui est un artiste sa musique tourne autour essentiellement autour d'une énorme percussion dont la peau est tendue vers le ciel, et c'est des performances, vraiment quelque chose à voir. J'ai bien des extraits audio à faire écouter, mais c'est issu de vidéos, parce que vraiment sa musique, c'est quelque chose à voir. Donc il tourne autour de sa percussion, sans cesse, incessant. Il appelle ça des continuums. Et tout au long de cet acte, il frotte la peau avec différents objets. Une cymbale, une pièce de cuivre, un morceau de tuyau en cuivre. Tout est assez métallique. Et garde cette note continue, incessante, pendant tout le concert. Donc c'est quelqu'un que j'ai vu de nombreuses fois. C'est une véritable écoute du corps. Ça nous impose quelque chose extrêmement hypnotique. Donc, ces quatre artistes réunis sous le même toit, j'ai pas réfléchi à deux fois pour les inviter, leur proposer la cathédrale. Voilà, ça me semblait logique.
Alors, tu parlais du théâtre No pour les deux premiers artistes, et je voulais savoir, est-ce que le Japon, est-ce qu'il amène, les artistes japonais amènent une certaine théâtralité de leur jeu sur scène ?
Alors c'est une chouette question. Je trouve, en fait, pour avoir vu pas mal de être très friand quoi d'artistes qui viennent du Japon, il y a dans leur manière d'être, manière de faire, quelque chose qui est pas forcément théâtral, mais qui a quelque chose un peu de burlesque, de Taku Sugimoto. L'année dernière, quand je l'ai vu aux abattoirs, Centre d'art Les Abattoirs à Toulouse, on arrivait dans la salle et il était en train de s'accorder. Donc le concert n'avait pas commencé, mais rien que sa manière d'être, la position de son corps, sa manière de tourner les mécaniques de la guitare, de l'accordage, tout. Tout le monde a déjà fait motus et bouche cousue. On pensait que ça avait déjà commencé. Et puis tout d'un coup, il s'est retourné, il a mis les choses en place. Et lors de son concert, en effet, oui, il y a une espèce de... Je disais théâtre No parce que, bon, je ne sais pas si on a tous déjà assisté à une pièce de théâtre No, mais le théâtre No, c'est des pièces qui durent entre 5 et 6 heures, où c'est absolument pas impoli de s'endormir puis de se réveiller. En discutant avec Taku Sugimoto juste avant son concert, lui, il m'expliquait que pour lui, ça ne le dérange pas que les gens s'assoupissent, s'endorment, se réveillent. Ça a été mon cas, en tout cas. Quand je l'ai vu, je me suis un moment, écroulé. J'ai fui, quoi. J'ai une espèce d'absence, et puis on se réveille dans ce son, quoi, dans ces fragments de notes encastrés de silence. Enfin, c'est une vraie expérience. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent un petit peu, voilà, la scène qui serait un peu genre drone, doom, voilà, un groupe comme Sun-O, voilà. Je dirais que Taku Sugimoto serait l'inverse de Sun-O. C'est quelqu'un qui va dans le négatif de toutes ces gros, dans ces océans de sons énormes au volume hyper fort. Il va dans le contraire, dans la radicalité inverse. Voilà, c'est unique. J'ai jamais vu quelqu'un qui abordait le silence de cette manière.
La captation des artistes sera électrifiée ou alors c'est de la pure acoustique?
Alors, ça sera très simple, très très basique. En ce qui concerne C. Buckthorn, il aura une petite sono ou alors un ampli guitare. Le même ampli guitare qui sera utilisé par Taku Sugimoto. Et peut-être la petite sono sera utilisé pour la voix de Minami Saeki. Vraiment, ils sont très très peu demandeurs de matériel. Et en thèse, lui joue en acoustique, bien sûr.
On va peut-être écouter un extrait sonore du deuxième artiste de la soirée.
C. Buckthorn, donc.
Oui, voilà. Et est-ce qu'on peut définir un peu sa musique?
Bon, comme je disais tout à l'heure, voilà, il s'oriente sur une scène ambiante, drone. Alors, drone entre guillemets, c'est ce qu'on appelle drone, c'est la musique de la note continue, voilà. Mais c'est également un peu teinté de folk éthéré, voilà. Il a une démarche aussi très musique folk.
Est-ce que quelle est au départ sa technique musicale et quel instrument joue-t-il?
Donc c'est guitare, 100% guitare. Et puis guitare folk, reprise sur micro. Et puis où il y a tout un petit jeu de pédales, d'effets, voilà. Beaucoup énormément de reverb, de delay, de... Il joue aussi également avec la pédale de boucle, mais avec finesse, ce qui est très rare d'ailleurs. En règle générale, j'aime pas trop les projets pédale de boucle. Voilà. J'aime pas vraiment l'effet spectaculaire que ça peut offrir. Mais pour ce coup-là, Andy s'en sort très bien. Et c'est une musique très onirique.
Tu parlais de musique éthérée même, de son éthéré. Ça veut dire qu'une fois un accord lâché par l'instrument, il y a une répercussion par rapport à l'architecture de la cathédrale. Il y a une captation aussi du micro qui revient ensuite et qui est retransformée encore de nouveau. Enfin, est-ce que c'est ça qui fait que cette ambiance soit éthérée, comme tu le dis?
Alors bon, je lui laisse un petit peu son petit travail à faire. J'ignore un petit peu toutes ces techniques qui lui sont sûrement personnelles. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par tout un jeu de son jeu de guitare et les effets qu'il utilise, voilà, il nous propose une musique. Je pense que où qu'il soit dans une cathédrale ou dans un studio très confiné avec un son très mat, il nous proposerait la même chose. En revanche, je suppose que sa musique, quand ça sort de l'ampli et que ça se répercute dans les parois, les voûtes et les murs de la cathédrale, ça va amener quelque chose de plus grand. Voilà.
Il existe une part d'improvisation dans ses compositions et justement par rapport à ses retours de l'architecture ou des faits, est-ce que ça l'emmène sur d'autres champs d'expérimentation de mélodie ou de son?
Il me semble que sa musique est entièrement écrite, qu'il n'y a pas d'improvisation. En revanche, je pense qu'il fait partie de cette gamme de musiciens qui savent, je pense, jouer avec les erreurs, jouer avec l'imprévu.
Donc on peut écouter un extrait de C. Buckthorn. Aussi, hein, tu es autodidacte dans ce que tu produis.
En tant que programmateur ou en tant que musicien?
Musicien, oui, c'est pour savoir s'il existe une corrélation avec tous les musiciens et ceux que tu connais ou que tu as entendu.
Alors oui, pour les gens qui nous écoutent, alors, je ne l'avais pas mentionné, mais oui, en effet, je suis musicien. Et c'est vrai que je gravite sur une scène où j'ai eu l'occasion de rencontrer tous ces gens. Et en ce qui me concerne, oui, je suis autodidacte.
De toute façon, hein, comme disait Jean Kelevitch, quand on veut être joueur de sitar, on joue du sitar.
Exactement.
On passe ensuite à Antèse. Antèse, qui est de quelle origine?
Alors, Antèse est français. Pour la petite parenthèse, c'est lui qui, il y a à peu près 30 ou 35 ans, a monté le lieu le 102 à Grenoble avec l'aide d'un ami à lui qui est Eric M. Voilà. Donc deux musiciens encore bien d'actualité là sur la scène. Donc lui c'est le routard de la musique, il est sans cesse en tournée. C'est une sorte de dévotion, le gars ne fait que ça. Sur la terre entière avec son petit jumper et son petit jumpy, voilà. Et voilà, il tourne énormément Roumanie. C'est impressionnant. Voilà, il fait que ça, quoi. C'est de la dévotion. C'est vraiment... sa démarche me plaît beaucoup. Il a un investissement dans sa musique qui est vraiment radical, jusqu'au boutiste. Il ne vit que de ça, et il ne fait que ça. Et... Donc c'est un grand honneur de l'avoir. Et après, c'est quelqu'un qui collabore avec beaucoup de gens. Qui a fait des duos, qui a un très beau duo avec Yann Gourdon, qui joue la vielle à roue. Un autre groupe qui s'appelle Vacuum, où lui est batteur. Il est aussi batteur d'un autre groupe qui s'appelle Nu-Tête. Et tous ces groupes, toutes les musiques dans lesquelles il s'engage, c'est toujours des musiques extrêmes, très denses, avec des énormes élévations sonores, Mais c'est vrai que Anthèse, lui-même, en solo, avec son projet de Continuum, voilà, ça fait un petit bout de temps qu'il tourne avec ça. Et bon, c'est une grande joie de le recevoir à la cathédrale.
Par rapport à Grenoble, tu citais le 102. Est-ce que, moi je connais aussi, je ne sais pas si ça existe toujours, mais Metamkin.
Ouais, cellule Metamkin, oui. Je pensais qu'ils étaient lyonnais.
Non, il me semblait que c'était d'accord. Grenoble. Hein.
Alors oui, ça existe toujours. Puisque c'est aussi... C'est un label de musique également.
Un catalogue avec un catalogue énorme.
Ouais. Alors, ils ont toujours une actualité. Je suis de très loin, voilà. Mais... Oui.
Et en parlant de label, donc toi tu es ici aussi, tu représentes Isola Records qui organise cette soirée donc.
Oui.
Vous êtes deux normalement à gérer cette association. Quelle est l'autre personne? Tu peux nous en parler?
Oui. Eh bien, donc il s'agit de Stéphane Barascud, qui est mon binôme joueur de banjo dans notre groupe Cantenac Dagar. Et Isola Records, ça, c'est un label qui a, on va dire, 6-7 ans, monté en 2011, qui à l'origine c'était pour produire nos propres disques, cassettes ou CDR, vinyle, c'est multi-support. Et puis depuis quelques temps, on a décidé on a eu la volonté de signer, j'aime pas ce mot, signer, d'accueillir d'autres, des artistes qui n'étaient pas nous. Et je pensais surtout à ce groupe qui s'appelle Nibul, groupe toulousain, un duo sax-batterie, qui font une musique assez intense, assez étirée. Et prochainement, un groupe de techno-noise ultra-intense qui s'appelle Gugayage. C'est un groupe de Toulouse, Bordeaux-Toulouse. Et voilà, prochainement, on a prévu de leur faire une cassette. Voilà.
Alors, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à tous ces musiciens, tous ces artistes, et toi y compris, quelle est la part de culture et d'héritage traditionnel qu'on peut percevoir et qui vous inspire dans votre démarche créatrice?
Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je sais pas si elle est de moi, mais en tout cas je l'ai construite par moi-même, qui dit « le passé, c'est le futur ». Je crois vraiment en cette phrase, et surtout pour la musique. Enfin, je pense qu'elle s'applique, elle est valable en tout point de la vie, en ce qui concerne la musique, j'en suis persuadé. Alors oui, en effet, on est tous immergés de musique traditionnelle française, mais pas que, japonaise et de multiples influences. Et la passion de ces musiques-là nous enrichissent pour ce qu'on a envie de faire à l'heure actuelle, en 2018, que ce soit avec une machine, en faisant du beatbox, ou avec un banjo.
Donc, ça aura lieu à la cathédrale, ce concert. On peut estimer à peu près, tu as programmé une durée de combien environ ?
J'ai compté à peu près une moyenne de 40-45 minutes par acte. Il y aura peut-être des débordements ou même des petits écourtements de concerts. Ouverture des portes à 19h30, comme ce sera mentionné, comme c'est mentionné sur les affiches et sur les tracts qu'il va y avoir un petit peu partout en ville. Donc ouverture des portes 19h30, concert à 20h. Je pense que ça nous amènera à minuit, voilà.
Alors on peut peut-être inviter le public aussi à s'armer de couvertures et peut-être de petits effets réchauffants, parce que la cathédrale, je pense qu'elle sera un petit peu frigorifiée.
C'est vrai. Alors c'est vrai que j'ai pas...
Mais ça, c'est pour ça que je le dis aux auditeurs, voilà. Hein, c'est de prévoir ça peut-être.
Amener une petite laine, oui, en effet. Je suis sur ce concert-là depuis, on va dire, 3-4 mois et j'avais dans... à l'esprit que le 10 avril, le temps se serait réchauffé. Ce sera peut-être le cas, mais bah, s'il fait comme aujourd'hui, à mon avis, il va faire froid. La cathédrale sera quand même chauffée. Mais oui, pour chauffer un tel bâtiment, vaut mieux s'amener une petite couverture, un bon gros pull.
On va écouter donc un extrait aussi de ce que propose Anthèse.
C'est ça. Alors, il faut savoir que c'est donc le son d'une vidéo.
Thank you.
de ce style musical ou de cette démarche musicale plutôt. On peut pas lui donner une étiquette ou la catégoriser. Mais par contre, je voulais savoir, d'après toi, quel est le fer de lance de ce type de musique? Qu'est-ce qui a démarré cette démarche et depuis combien d'années?
Taku Sugimoto s'inscrit complètement dans la scène des musiques extrêmes japonaises. Alors, je dirais que ça a fleuri dans les années fin 70, mais en soi, même la musique traditionnelle japonaise en elle-même est déjà quelque chose d'extrêmement radical dans son silence, dans les temps de pause. Tout ça, c'est un peu décrit dans un très beau livre qui s'appelle L'éloge de l'ombre de Tanizaki, où il explique le problème qu'a rencontré la musique japonaise quand les transistors, quand les radios sont arrivés au Japon dans les années 40. Et pour lui, c'est un scandale parce que voilà, ça a poussé les jeunes japonais à se mettre à faire de la pop, des morceaux de 4 minutes, couplets, refrains, en bannissant le silence. Parce que la musique japonaise traditionnelle sont des morceaux, quand on écoute le gagaku par exemple, avec des orgues à bouche, c'est des morceaux de 30, 40, 50 minutes. Et donc avec des silences extrêmes et des moments d'acidité sonore hyper forte. Donc bien sûr, ça n'a pas sa place à la radio. Donc oui, pour Taku, il s'inscrit complètement dans la scène, dans la scène noise extrême, où dans les années 70, il y avait ce duo qui s'appelait Hijo Kaidan. Ce sont un peu les précurseurs du bruit extrême. Voilà, des performances de 2 heures, guitare saturée, sursaturée. On va dire que c'est les parents de la légende Merzbow. Alors Merzbow, pour ceux qui nous écoutent qui connaissent pas Merzbow, c'est devenu un peu la star, on va dire, du bruit extrême. Voilà, il vient du Japon, performance, des volumes sonores énormes.
Et puis une pureté du son aussi. Moi, je pense à Panasonic qui a travaillé avec Merzbow aussi. Ouais. C'est vrai que ce sont des sons, je ne peux pas le définir autrement que sublime, magnifique, et qui touchent juste par rapport à la pureté de la fréquence. Je ne sais pas comment. Ouais, je ne suis pas musicien, donc je n'ai pas tous les mots. Tu parlais de silence. Mortal Feldman, est-ce que tu connais un peu?
Oui,
un pianiste,
oui.
Un peu méconnu, mais où lui aussi avait une rareté de notes dans ses partitions, avec des longs silences ou des longues pause. Est-ce que ça influence aussi? Est-ce qu'il y a des échanges d'influence comme ça avec tous ces artistes?
Je pense que oui. Je pense que clairement, Taku Sugimoto doit apprécier Morton Feldman, tout comme il doit apprécier John Cage dans leur approche du silence. La particularité de Taku, c'est que non seulement il offre quelque chose musicalement, mais il a une manière d'habiter l'espace pendant ses concerts. Pourtant c'est statique, hein, ça joue pas, il n'y a pas quelque chose, il n'est pas en train de sauter partout, il n'y a pas quelque chose de spectaculaire à voir, et en même temps c'est assez hypnotisant de le voir lui habiter l'espace dans les moindres recoins. Pour Minami Saeki, je sais pas, parce que comme je te disais tout à l'heure, je ne l'ai jamais vu. Voilà, ça va être la découverte.
Il n'y a pas de moyenne d'âge de ces artistes qui viennent. Ils sont de toutes, d'origine d'une même époque, ou alors, je ne sais pas, est-ce que ça prend en compte aussi cette notion de l'âge par rapport à une idée de capter le son ou de le restituer avec la technologie qui vient, avec son époque contemporaine?
pour en ce qui concerne Taku Sugimoto, il est issu de, on va dire, de la vieille école de musique extrême japonaise, donc voilà, 80-90. Après, il est sûr, c'est sûr et certain, il y a en effet une relève voilà, au Japon avec des jeunes artistes japonais qui s'engagent dans ces musiques-là. C'est vrai que je suis un peu plus attentif à l'ancienne école, non pas parce que c'est juste par manque de connaissances et de culture sur ce qui se fait réellement en ce moment. Alors, je connais bien quelques noms. Un gars qui s'appelle Nulax Nulan ou la veuve moustache. Des gens qui suivent, et eux, ils sont un peu plus dans une veine électro.
Dans l'ensemble, à quoi est due cette mise un peu à l'écart médiatique de cette démarche expérimentale et de recherche musicale? Est-ce que c'est aussi une volonté de la part des musiciens de se situer en marge de ce qui est proposé au public en général?
Là, je pense qu'on touche une grosse question. Je crois que non. En fait, eux, si on leur proposait de passer à la radio, ils diraient oui. D'ailleurs, je sais que pour le groupe Hijokaidan, dont je parlais tout à l'heure, je sais qu'ils ont fait des émissions de télé en Italie dans les années 90. Voilà, non, je pense que c'est surtout... on ne leur ouvre pas la porte parce que c'est juste la dictature de la culture de la musique marchandise qu'on nous sert à la radio. Et voilà, dès lors qu'on s'éloigne du couplet refrain pop musique chanté en anglais ou enfin bon, voilà.
On peut toutefois quand même ne pas ignorer certains, comme tu dis, certains artistes du mouvement pop qui ont permis peut-être, moi personnellement, à aborder ce type de cet univers de musique expérimentale ou de recherche. Je pense en premier lieu à Pink Floyd. C'est ce que j'avais dans ma jeunesse, mais eux pratiquaient l'électroacoustique dans leur composition. C'est une démarche qui m'intéressait et que j'ai cherché à découvrir de plus en plus en découvrant d'autres artistes. Donc, je reviens un petit peu sur un artiste qui m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que je parlais de théâtralité, parce que je l'ai vu sur scène aussi. Il s'agit de Otomo Yoshihide, où le corps, malgré juste l'utilisation d'une tête de lecture de platine vinyle, on voit vraiment tout son corps jouer avec une tension et des vibrations. Est-ce que cette théâtralité, on peut la retrouver aussi? Est-ce qu'il y a une école de ça?
Je pense pas. Je pense que c'est juste une manière d'être. C'est marrant parce que tu parles de Otomo Yoshihide. Et dans un autre registre, mais qui est très proche au final, il y a DJ Crush, qui est également platiniste japonais. Et les deux ont une approche de la platine mais qui est folle, quoi. C'est vrai que Otomo Yoshihide, sur scène, c'est... C'est saisissant de gestes, de retenue, de soubresauts. Et pour DJ Crush aussi, il y a une espèce de précision chirurgicale, je dirais même.
Ça donne envie de jouer ou d'expérimenter soi-même aussi, quand on écoute des artistes comme ça. Un peu comme la peinture, hein. Tu parlais de son brut, de son extrême, qui est une école, finalement, depuis la fin des années 70, tu le disais. Est-ce que la peinture et ce style, on peut y trouver un parallèle, puisque un artiste peintre ou un étudiant aux Beaux-Arts passe par le domaine de l'art classique pour avoir quelques bases? Est-ce que c'est un peu pareil aussi ensuite pour un musicien, et ensuite de trouver lui-même son univers et sa démarche?
Je pense que en tout cas en ce qui concerne les gens que j'invite, oui, ce sont des artistes qui ont aussi un pied dans l'image et le visuel à sa part, à son mot à dire, je dirais, dans leur travail. J'aime bien le rapprochement avec la peinture, parce que en ce qui concerne Cy Buckthorne, il y a quelque chose de très pictural dans sa manière, dans la musique qu'il nous donne. C'est vraiment des paysages. J'ai une amie qui l'a vu quand il est passé à Grenoble il y a un mois et demi. Elle me disait qu'elle était dans un... qu'elle s'est sentie en voyage dans les plaines d'Écosse, voilà, dans les espèces de fjords brumeux. Il y a ça qui a quelque chose d'extrêmement visuel, cinématographique, pictural.
C'est une musique de l'imaginaire, en quelque sorte.
Complètement, qui nous amène à nous évader.
Est-ce qu'il existe un site internet ou une page soit de réseau social pour annoncer et découvrir aussi ces artistes en amont?
Oui, alors, il y a toujours le site du label isola-records.com, isola-records.com. De toute façon, si sur internet on marque Isola Records, on tombe direct dessus. Il y a deux rubriques, il y a celle avec les disques et l'autre qui s'appelle concert, et quand on clique, il y a absolument tout dessus. Il y a également un lien sur une page Facebook, c'est Isola, c'est concert Isola Records, avec l'événement qui est dessus. Et puis, je sais pas, je pense que l'événement va être diffusé sur différents sites, isolarecords.com. Et puis le Facebook qui va avec.
Toujours Isola Records, ouais. Pour Facebook aussi. Eh bien, Aymeric, merci de nous avoir donné un peu de ton temps pour
merci
présenter cette soirée donc, du 10 avril à la cathédrale à partir de 19h30. Hein.
C'est ça.
Eh bien, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.